Pour cette dernière intervention, je vais donner la parole à Anne Camagne, juriste bénévole au sein de l'association APRES à Vienne, 38. Vous y avez travaillé pour professionnaliser un service d'aide aux victimes. Puis vous avez exercé au sein de l'AVAD à Marseille comme administrative ad hoc, puis chef de service. Vous avez intégré le groupe ressources administrateurs ad hoc au sein de l'INAVEM. Elle va nous expliquer, c'est l'association qui regroupe les structures d'aide aux victimes, et y dispenser des formations sur cette fonction. Depuis 2017, vous avez pris la direction de l'association France Victimes 38 APRES à Vienne. À travers vos conférences et les colloques où vous intervenez, vous expliquez et vous valorisez la fonction d'administrateur ad hoc que vous continuez d'ailleurs à exercer. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui en la présentant et en expliquant son rôle auprès du mineur. À vous la parole.
Je vais essayer de... Voilà, c'est bon. Voilà. Non, ça va aller. Donc tout d'abord, je tiens à remercier toute l'équipe de Ado 66 qui a organisé avec brio ce colloque et m'a invitée à y participer. Donc un grand merci. Voilà. Autre chose maintenant, plus compliquée, j'ai le lourd défi de maintenir l'intérêt vif de cette assemblée en étant la dernière à intervenir cette journée. Je remercie tous les intervenants vraiment. Alors, je peux me le permettre puisque je suis la dernière à intervenir. Donc, l'ensemble des interventions a été passionnante. La journée a été vraiment riche. C'était un plaisir. Donc, à moi maintenant de maintenir le niveau. J'ai un peu de stress. Donc voilà, quand on m'a demandé d'intervenir, c'était dans l'idée de parler de l'accompagnement des mineurs victimes par les associations France Victimes, par le réseau France Victimes, et également de parler des missions d'administrateur ad hoc. Alors, ce que je peux vous dire, à titre liminaire, si je mets mes lunettes, ça sera encore un peu mieux. Donc, à titre liminaire, je voulais vous rappeler le rapport qui a été rendu par l'IGAS, donc l'Inspection Générale des Affaires Sociales, en 2018, qui nous disait qu'un enfant meurt tous les 5 jours en France, tué par un de ses parents. Et la majorité d'entre eux sont âgés de moins d'un an et présentent notamment le syndrome du bébé secoué. Ce rapport, je le prolonge par celui qui a été rendu par la CIVISE et qui soulignait, comme dans le prolongement des travaux de la CIAS, qu'un adulte sur 10 a été victime de violences sexuelles durant son enfance. Et la CIVISE estime que 160 000 mineurs sont chaque année victimes de violences sexuelles et que 8 mineurs victimes sur 10 auraient subi des faits à caractère incestueux. Donc ça plante le décor, si jamais il y avait des corps à planter depuis ce matin, puisque tout ce qu'on vous annonce, c'est quand même relativement préoccupant. Donc c'est dans ce contexte que j'interviens, et du coup je peux vous dire que parce que la protection de l'enfance et la prise en charge des mineurs victimes sont intimement liées et doivent être travaillées en pleine cohérence et harmonie, que la Fédération France Victimes, inscrite au cœur des politiques publiques d'aide aux victimes, accorde une attention particulière à la prise en charge de ces victimes et à leurs besoins spécifiques. Alors, qu'est-ce que France Victimes ? C'est une fédération qui est composée de 130 associations d'aide aux victimes agréées par le ministère de la Justice sur l'ensemble du territoire national. Donc, en gros, pour faire bref, dès qu'il y a un tribunal judiciaire, il y a une association France Victimes qui n'est pas loin. À Perpignan, il y en a une, effectivement, je connais très très bien. Donc, 130 associations sur l'ensemble du territoire national, et je vous donne les derniers chiffres. En 2022, 31 899 mineurs ont été pris en charge par le réseau, donc par l'ensemble des associations, soit 11 000 mineurs de plus qu'en 2020. Et parmi ces 31 899 mineurs pris en charge, 11 534 étaient victimes dans le cadre intrafamilial. Donc là aussi, toujours des chiffres. Bon, après j'arrêterai, hein, mais bon, c'est quelques chiffres pour vous montrer l'importance de l'enjeu et de ce qu'on évoque aujourd'hui, enfin depuis ce matin, toute l'importance de ce qui a pu être rapporté aujourd'hui. Donc, dans le cadre de cet accompagnement, que font les associations d'aide aux victimes ? Elles peuvent assurer effectivement une prise en charge de ces mineurs sur le plan juridique, psychologique et social selon leurs besoins et peuvent également exercer, pour celles qui bénéficient d'un agrément spécifique, des missions d'administration ad hoc afin de représenter les mineurs en justice. Alors, ça, c'est une chose générale chez les associations d'aide aux victimes, mais la fédération elle-même, dont je suis administratrice d'ailleurs, la fédération, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Et bien, effectivement, dans le cadre de sa politique d'aide aux victimes menée, elle a renforcé ses engagements et ses actions en matière de protection et de prise en charge des mineurs victimes, et ainsi, elle a pu collaborer dans certains domaines avec une pluralité d'organismes et d'instances institutionnelles. Par exemple, on parlait de la CIAZ, hein, donc c'est la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, on en a parlé tout à l'heure. De 2019 à 2021, la Fédération a géré la plateforme téléphonique qui était destinée à recevoir tous les témoignages des personnes victimes. Donc c'était une plateforme qui récupérait les témoignages et ensuite il y avait des auditions par la CIAZ. Des conventions ont également été passées avec des fédérations sportives, notamment le handball, l'escrime, faire du repérage, alors pour prendre en charge les mineurs victimes qui pouvaient dénoncer des faits dans le cadre de ces pratiques sportives et dans la mesure où ils étaient licenciés de ces fédérations. Mais donc il y a tout un travail de repérage et de formation des intervenants qui a été mise en place pour accentuer ce travail de repérage de victimes au sein de ces fédérations sportives. Donc c'est vraiment le travail sur la détection et la prise en charge des mineurs dans le sport. En 2021, la fédération a lancé avec le fonds de garantie un site internet qui s'intitule Parcours... J'ai du mal à faire deux choses, je crois que... Voilà, en même temps. Alors, voilà, je suis désolée, je parle, je ne fais pas les slides en même temps. Donc voilà, on en est à création du site parcoursvictime.fr, impeccable. Donc ça, c'est un site qui a été créé pour accompagner les victimes de violences dans les principales étapes de leur parcours et il y a un volet pour les mineurs victimes. J'ai participé à sa rédaction, donc je trouve que c'est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant, mais bon, encore faut-il que ce soit des enfants qui soient déjà assez à l'aise avec l'outil informatique, Internet, etc. Dans le cadre du déploiement des UAPED, alors je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est, si ça a été, je pense que dans le 66, il me semble qu'il y a quelque chose qui doit se développer, c'est des unités d'accueil pédiatrique, enfants en danger, donc il y en a une par département, elles doivent s'installer, vraiment, elles sont créées sur l'ensemble du territoire et les associations d'aide aux victimes sont totalement impliquées et ont leur place. Donc, elles vont y participer, hein, ces UAPED. Donc, afin de faciliter dans un service pédiatrique hospitalier, hein, on est vraiment dans un milieu hospitalier, l'audition et l'accompagnement des enfants victimes de violences. Donc, ça veut dire que ce sont des unités spécifiques avec intervention, bien évidemment, du monde hospitalier, pédiatre, etc., mais avec intervention police, gendarmerie et association d'aide aux victimes, etc. Par ailleurs, la fédération a pu créer et développer aussi des outils d'information et de communication à destination spécifique des mineurs et des professionnels qui œuvrent auprès des mineurs. Alors là, je n'ai pas mis de photos parce que je ne les avais pas, mais il y a ces livrets qui sont donc mon parcours de justice. Alors c'est quelque chose, un livret pédagogique destiné aux 7-13, plutôt ludique, enfin pédagogique et ludique, afin qu'ils s'approprient le parcours et le rôle de chaque protagoniste dans le cadre de la procédure judiciaire en cours. Alors il y a par exemple le juge des enfants, voilà, il est là. Il y a plein de petites choses qui sont assez marrantes. Plus des petits jeux sur la justice, enfin bref. Et donc ça, c'est à... Alors moi, je m'en sers beaucoup en tant qu'administrateur ad hoc avec les 7-13, les 7-13. je leur donne et eux complètent un petit peu. Bon, ça leur permet de voir par où ils sont passés, quel est le rôle de chacun. Donc ça, c'est mon parcours de justice et l'association France Victimes 66 a ces livrets-là si jamais vous voulez les consulter, éventuellement voir les utiliser. Et puis, il y a un autre flyer qui est tout à fait intéressant, qui a été aussi réalisé par la Fédération, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle « Tu as des droits ». Donc, il se présente comme ça. Alors là, il est plus pour les un peu plus grands, on va dire pour les ados, parce qu'il y a quand même pas mal de textes. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a tout, il y a les numéros aussi, les numéros importants, donc 119, 30-18, 30-20, etc., donc ils sont repris. Donc bref, une fédération qui soutient les associations locales, mais qui a aussi elle-même à cœur de mener une vraie politique en faveur de l'aide aux victimes, l'aide aux victimes pour les mineurs, spécialement pour le public mineur. À présent, je vais vous parler maintenant de ce fameux personnage qu'on appelle l'administrateur ad hoc, que peu de personnes connaissent, même si parfois, je pense qu'en tant que travailleur social, vous avez dû en rencontrer. Alors peut-être que vous avez localement un administrateur ad hoc, personne physique. Bien souvent, maintenant, sur l'ensemble du territoire national, ce sont des associations, et notamment les associations d'aide aux victimes, qui sont désignées pour être administrateur ad hoc. Il faut un agrément, hein, je vais vous en parler. Mais donc voilà, en tout cas, et je sais également que sur le 66, l'association d'aide aux victimes, France Victimes 66, a l'habilitation pour être administrateur ad hoc. Donc comme vous le savez, je ne vais pas revenir là-dessus, le mineur en droit français est considéré comme un incapable, c'est-à-dire une personne qui, tout en ayant des droits, eh bien, n'a pas l'aptitude pour les exercer. Et donc avec ce régime, le législateur a souhaité protéger le mineur de son manque de maturité et de discernement. Et donc c'est par le mécanisme de la représentation que le mineur va pouvoir agir en justice. Donc le représentant légal du mineur qui est détenteur de l'autorité parentale, donc c'est ce dernier qui agit en représentant son enfant dans la mesure où il y a une identité d'intérêt entre eux. Mais là commencent les problèmes, c'est-à-dire qu'il arrive qu'un conflit d'intérêt, voire une opposition d'intérêt survienne entre le détenteur de l'autorité parentale et son enfant mineur. Dès lors, donc, l'intervention d'un représentant spécial s'impose et en droit français, le législateur lui a donné le nom d'administrateur ad hoc. Alors, je vais vous faire un bref historique. J'espère que ça ne va pas trop peser. Donc, l'administrateur ad hoc est une institution qui avait été consacrée en matière civile dans un souci de protection essentiellement d'ordre patrimonial par la loi du 6 avril 1910. Donc, première apparition de l'administrateur ad hoc, 1910, et uniquement au civil. Son champ d'intervention concernait principalement des affaires de succession, de partage et des actions en matière de filiation, tout ce qui concernait les contestations de paternité, etc. Donc ça, on est en 1910. Et là, on va faire un grand bond. Plus rien ne se passe. Et sur le plan pénal, il a fallu attendre la loi du 10 juillet 1989 sur la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection de l'enfance pour voir réapparaître ce terme d'administrateur ad hoc. Et donc cette loi a donné naissance à un article 87-1 du Code de procédure pénale. Cette disposition donc, qui parlait de l'administrateur ad hoc apparaissait malheureusement trop restrictive dans la mesure où en fait l'administrateur ad hoc ne pouvait être désigné que par un juge d'instruction qui était saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, mais les faits ne devaient être commis que par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou l'un d'entre eux. Donc en fait, la seule désignation par un juge d'instruction et les faits, il fallait que ce soit en gros l'un des parents qui commette l'infraction à l'encontre de leur enfant. Donc extrêmement restrictif. On est en 1989, on fait encore un autre bond et on arrive en 1998, loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions de nature sexuelle et la protection des mineurs. Là, on abroge le 87-1, donc on abroge tout ce qui nous provient de la loi du 10 juillet 89 et on modifie les textes. Et donc on modifie complètement le régime et les conditions d'intervention de l'administrateur ad hoc, donc afin d'assurer une meilleure prise en compte des intérêts des victimes. Et ça donne naissance à quoi ? Ça donne naissance à l'article fondamental pour tous les administrateurs ad hoc, c'est l'article 706-50 du Code de procédure pénale. Alors cet article n'est pas très très long, je vais vous le lire, vous l'avez écrit ici. Le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci, les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement. En gros, au pénal, il n'y a quasiment que cet article-là qui concerne l'administrateur ad hoc. Après, il y a quelques éléments, mais qui consacrent des modalités d'intervention d'administrateur ad hoc dans le cadre de l'enquête ou des auditions, juge d'instruction, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce texte ? Tout d'abord, qu'il s'agit d'un mandat judiciaire limité dans le temps. Ce mandat s'achève avec la majorité de l'enfant, avec son émancipation, voire son décès, et plutôt s'il y a un acquittement, une relaxe, un non-lieu, un classement sans suite, ou en cas d'absence de dommages à intérêts à recouvrer. C'est un mandat également qui est limité dans son contenu, puisqu'il vise la protection des intérêts du mineur dans une affaire pénale, et s'il y a lieu, l'exercice des droits reconnus à la partie civile. Cette limitation est un véritable rempart contre tout empiétement abusif sur les droits parentaux par l'administrateur ad hoc. Donc on est bien, vraiment, l'administrateur ad hoc est focalisé sur une affaire en particulier, et un temps donné qui peut être celui de l'ensemble de la minorité selon l'évolution de la procédure pénale. Donc en gros, de façon très pragmatique, qu'est-ce qui se passe ? Cette mission, elle débute le plus fréquemment pendant la phase d'enquête, voire d'instruction de l'affaire, et elle se poursuit lors du procès et continue avec le recouvrement de dommages à intérêts et le placement de ces fonds sur un compte rémunéré, ouvert au nom du mineur et bloqué jusqu'à sa majorité. Donc on s'aperçoit que finalement, l'administrateur ad hoc, c'est un organe de substitution lorsque l'organe principal s'avère défaillant. Il vient quelque part rétablir l'équilibre des forces dans un contexte familial particulièrement dégradé. Donc maintenant qu'on sait ça, on se dit, bon bah très bien, et qu'est-ce qu'il fait très concrètement cet administrateur ad hoc ? Alors j'ai essayé de vous lister un petit peu, donc vous l'avez là, de vous lister... Tout ce que doit réaliser cet administrateur ad hoc quand il reçoit un mandat, donc d'un magistrat au pénal. Donc, dans un premier temps, il se constitue partie civile. Alors, vous allez me dire, et là, j'ai souvent la question, notamment dans le cadre des formations que je donne, oui, mais se constituer partie civile, pourquoi ? Peut-être que l'enfant ne veut pas, etc. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais j'ai une petite anecdote. Je ne sais pas combien de temps il me reste encore. 5 minutes, j'ai pas d'anecdote. Alors voilà, donc c'est dommage, j'en ai une qui illustre vraiment le propos, mais l'idée c'est de toute façon, il faut se constituer partie civile pour pouvoir avoir accès au dossier et savoir de quoi il ressort. Ensuite, il faut choisir un avocat qui agira au titre de l'aide juridictionnelle, prendre connaissance du dossier pénal, donc là on est totalement en lien avec l'avocat. Moi je dis souvent aux enfants que je reçois, tu me vois là, il y a l'avocat, on travaille en binôme. Quand tu vois l'un, tu vois l'autre. Voilà, c'est un vrai binôme, on sera là en binôme. Mais on ne fait pas les mêmes choses et il va s'en apercevoir très rapidement. Donc, prendre connaissance du dossier pénal avec l'aide de l'avocat, rencontrer l'enfant, bien évidemment, afin de lui expliquer la procédure en cours et le préparer aux différentes étapes procédurales à venir. Formuler des demandes d'actes. Donc ça, c'est vraiment... Je vous dis ça, je vais du coup très rapidement, je ne pensais pas avoir aussi peu de temps, très rapidement, la rencontre avec l'enfant, la mission d'administrateur ad hoc, c'est une mission juridique, qui peut se dire juridique, mais c'est surtout une mission pédagogique. C'est faire comprendre à l'enfant tout l'enjeu de la procédure, lui faire comprendre les différentes étapes procédurales qu'il va avoir à traverser. Donc, les rencontres, c'est surtout ça. Bien évidemment, il va falloir qu'ils formulent des demandes d'actes, toujours en lien avec l'avocat, hein, donc discussion systématique avec l'avocat, où en est le dossier, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Mais sachez que c'est l'administrateur ad hoc, le client de l'avocat. L'avocat ne peut pas prendre de décision seul, et l'avocat ne prend pas ses décisions en écoutant l'enfant. Et ça peut être subtil, mais c'est absolument essentiel. C'est-à-dire que si l'enfant dit « Non, mais en fait, moi, je ne veux pas du tout, je ne veux rien, je veux qu'on en finisse », il va lui dire ce qu'on a dit depuis tout le début de la journée, « Je t'entends ». Mais il y a quelqu'un qui s'appelle administrateur ad hoc, qui veille à la protection de tes intérêts, qui n'a pas, qui, dans le cadre de cette protection de tes intérêts, n'a pas ce souhait-là, et j'écouterai la parole de l'administrateur ad hoc. Ça, c'est la parole de l'avocat. Et moi, en tant qu'administrateur ad hoc, c'est vraiment ce que je dis. Je dis, je t'entends. J'entends que tu veux retourner voir papa, que tu... Voilà, j'entends. J'entends que tu veux absolument pas de problème, que personne aille en prison, etc. Néanmoins, tu as souffert, tu as vécu des choses qui sont absolument de l'ordre de l'interdit. C'est totalement transgressif ce qui s'est passé. Et la loi doit passer à travers ça. Et la loi, avec la justice, doit passer à travers ça. Donc, formuler des demandes d'actes, accompagner physiquement et moralement l'enfant lors des auditions, des confrontations, des expertises, des audiences. Alors là, je fais très bref, mais je pourrais vous en parler. Voilà. Donc, quand je dis audition, confrontation, ça peut être très en amont, dans le cadre devant dans le cadre d'une commission rogatoire, par exemple, donc service de police, gendarmerie, mais ça peut être aussi devant le juge d'instruction. En audience, on parle du TPE, on parle du tribunal correctionnel, mais aussi de la cour d'assises, et éventuellement même de la cour criminelle départementale maintenant. Et puis les expertises, là j'ai en tête tout ce qui concerne les expertises qui sont ordonnées par la commission d'indemnisation des victimes dans le but d'évaluer le préjudice et ensuite de le liquider. Un point très important que je pourrais aussi développer, c'est se positionner quant à la demande de retrait d'autorité parentale qui pourrait être prononcée par la juridiction. Sur le fondement, alors on a la possibilité avec l'article 378 du Code civil et puis maintenant même au pénal, il y a même une obligation de se prononcer pour les juridictions dans les affaires de viol et d'agression sexuelle avec l'article 222-31-2 du Code pénal. Bref, tout ça pour vous dire que le retrait de l'autorité parentale, c'est quelque chose qui est de plus en plus prononcé, mais à la fois, ça peut être tout à fait intéressant. Mais moi, je me refuse à systématiser cette demande. Il faut qu'il y ait du sens. Et il faut vraiment... moi, j'ai apprécié aujourd'hui d'entendre que chaque cas est unique, qu'il faut savoir apprécier, qu'il n'y a pas de systématisme à avoir. Et là, effectivement, je suis souvent... Alors, je suis beaucoup intervenue... aux côtés du juge Édouard Durand et souvent après lui, j'essaye de lui faire entendre que le systématisme, moi je n'y crois pas, alors je le vis au quotidien et puis ça correspond pas, enfin c'est vraiment, enfin, mais je pense que je sais pas, vous dans vos, enfin j'imagine que vous avez la même opinion, enfin je l'espère, mais vraiment tout ça pour vous dire que je ne crois pas à quelque chose de catégorique. On ne peut pas dire voilà, cet enfant a été violenté, hop, on casse, retrait d'autorité parentale. C'est lourd, c'est fort, c'est extrêmement lourd le retrait d'autorité parentale. C'est lourd de conséquences. Ça peut être tout à fait indiqué. Moi, j'en ai fait la demande dans plein de dossiers. Mais en tout cas, ça demande de se poser 5 minutes, d'y réfléchir, d'en discuter en équipe avec les travailleurs sociaux qui connaissent l'enfant, qui connaissent ce qui est en train de se construire avec le parent ou de se reconstruire. Mais vraiment, ça demande en tout cas un vrai temps de pause et un vrai temps de réflexion. C'est pas un truc comme ça à lancer en se disant « Allez, aujourd'hui, on va aller sur des positions définitives et retrait d'autorité parentale. Demander la réparation du préjudice subi par l'enfant et le chiffrer avec l'aide de l'avocat. » Donc là, c'est tout ce qui concerne les dommages à intérêts, la demande devant la commission d'indemnisation des victimes, exercer les voies de recours. Ok. Donc ça pareil, toujours en discussion avec l'avocat, informer le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs compétents afin d'être autorisé à recouvrer placer les fonds revenant aux mineurs, saisir la CIVI, le SARVI. Alors ça c'est des acronymes, donc commission d'indemnisation des victimes d'infractions, SARVI c'est le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions. Enfin, tout ça, c'est pour le recouvrement des fonds. Je passe parce que, bon, voilà. Mais on pourrait aussi en parler. Placer les fonds, c'est bon, pas forcément très intéressant, mais en tout cas, c'est essentiel pour l'enfant qui a subi un préjudice et qui va avoir un petit pécule à l'arrivée de sa majorité. Remettre à l'autorité mandante un rapport de fin de mission détaillant les démarches accomplies. Ça, c'est dans les 3 mois qui suivent la fin de la mission. Et surtout, être un lien entre l'enfant, la famille, les réseaux médico-sociaux éducatifs, le magistrat en charge de l'affaire, l'avocat. Ça c'est vraiment, je dis, l'administrateur ad hoc est un peu une clé de voûte, il a un rôle pédagogique, juridique, il est chargé, enfin il lui appartient d'expliquer le déroulement, l'intérêt, l'enjeu des différentes phases de la procédure judiciaire auquel il est ou il sera confronté. C'est ça, c'est un peu une clé de voûte entre les différents intervenants auprès de l'enfant. J'ai encore... Taxi dans 20 minutes. Alors, j'ai encore, je voulais juste vous... 5 minutes ?
5 minutes, 10 minutes du débat.
D'accord, ok. Donc, encore 3 petites choses et puis je vous laisse la parole. Pour autant, l'exercice de cette mission, elle sort à des réalités parfois bien différentes selon les mandats confiés. Et comme je vous le disais, on doit pouvoir apprécier chaque situation dans sa problématique afin d'adapter au mieux chacune de ses décisions. Moi, je dis souvent dans les formations, toute décision que vous allez prendre en tant qu'administrateur ad hoc, il faut que vous ayez en tête... qu'à 18 ans, l'enfant va revenir vous voir pour récupérer l'argent que vous avez recouvré pour lui et placé sur un compte. Il va récupérer son dossier pénal, enfin, en tout cas les éléments que vous allez lui fournir. Il faut que la décision que vous ayez prise, quand il va revenir à 18 ans, vous puissiez lui expliquer de façon très sereine et tranquille pourquoi vous avez pris cette décision. Si, au moment où vous prenez cette décision, déjà, il y a un truc qui ne va pas, vous vous posez des questions, c'est que ce n'est pas la bonne décision. Il faut que ça ait du sens. En fait, il faut que toute décision de l'administrateur ad hoc elle ait du sens. Mais ça revient encore à tous les propos que j'ai entendus aujourd'hui. Il ne faut pas systématiser, prendre en considération chaque situation et la singularité de chaque situation et donner du sens à chaque décision que vous allez prendre. Petites illustrations. Exiger d'un parent qu'il verse des dommages et intérêts sur un compte bloqué ouvert au nom de son enfant alors que lui-même se trouve en grande précarité et que l'enfant réintégrera rapidement le domicile familial. Ne revient-il pas à amoindrir le pouvoir d'achat de la famille avec des conséquences sur le quotidien de l'enfant dont les intérêts sont censés être protégés par l'administrateur ad hoc ? Point d'interrogation. De même, alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander de dommages et intérêts, hein, mais en tout cas, on se pose la question. Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça n'a pas de sens ? De même, comment un enfant pourra-t-il revenir au domicile familial sans appréhension des représailles ou de vives réactions du parent qui aura été condamné à payer des dommages et intérêts et qui devra verser mensuellement une somme grevant les ressources familiales ? Point d'interrogation. Donc toujours pareil, mettre du sens derrière ces dommages et intérêts. Et ça, c'est essentiel, parce que sinon, faute de quoi, si vous n'arrivez pas à mettre du sens là-dessus, vous allez avoir la réaction de l'enfant qui ne va pas se faire attendre et qui va dire « Ah ouais, ça, c'est l'argent pour avoir couché avec papa ». Par ailleurs, l'administrateur ad hoc peut se trouver aussi confronté à des situations dans lesquelles les parents ayant récupéré la garde de leur enfant refusent toute poursuite de la procédure en indemnisation et de ce fait refusent d'amener leur enfant aux expertises médico-légales régulièrement ordonnées pour déterminer la consolidation et évaluer les chefs de préjudice. Cette situation s'avère sans issue, notamment lorsqu'il n'y a pas de dossier ouvert en protection et donc pas de travailleurs sociaux auprès de la famille. Et puis, dernier point, dernière difficulté, mais je l'ai évoqué, concerne le retrait de l'autorité parentale. Effectivement, se poser, c'est pas rien. Et donc, l'administrateur ad hoc doit pouvoir expliquer à la juridiction, quand elle le demande ou quand elle ne le demande pas, et aux parents sa position qui ne peut pas être systématique, mais au contraire en adéquation avec le contexte familial. Pour conclure, Je reprendrai quelques mots qui ont été cités dans le cadre de la présentation du rapport de la Civise qui disait « Pendant des siècles, on a pensé qu'on devait protéger les enfants orphelins et les enfants vagabonds. Mais ceux qui arrivaient aux enfants à l'intérieur de la maison ont considéré que cela ne nous regardait pas. Aujourd'hui, en nous voyant tous réunis avec l'ambition de mieux repérer, protéger et prendre en charge les enfants victimes, eh bien, une vague d'optimisme m'envahit. Merci. »
Merci Madame Camagne de nous avoir éclairé sur cette fonction indispensable. Monsieur Rosenzweig et Madame Camagne doivent prendre leur taxi dans exactement 15 minutes. Donc on va leur laisser 2 minutes pour courir. Et donc il nous reste 10 minutes pour des échanges avec la salle, des demandes de précision. À vous la parole. Là-bas.